Bonjour à tous et bienvenue dans Splash & Go, l'émission de la rédaction d'US Racing pour parler d'Euro d'America en IndyCar, du Kentucky en NASCAR. On parlera aussi de la All-Star puisqu'il y a des choses à dire, enfin de la All-Star. C'est peut-être plus de Tokyo Drift qu'on devrait parler, mais bon, c'est pas grave, on nous a dit que ça s'appelait la All-Star, on l'a appelé la All-Star. Pour m'accompagner, le guignol de Lyon, Aloïs. Salut Aloïs.
Salut Geoffroy et bonjour à tout le monde.
Et il s'en est toujours parmi d'avoir le bonjour de Martine, mais il est quand même là, c'est Lilian. Salut Lilian.
Salut Geoffroy, bonjour à tous.
Allez, on commence tout de suite avec l'IndyCar qui était du côté de Road America, non pas pour une course exceptionnelle, mais pour deux courses, Lilian, deux courses.
Et deux pour le prix d'une.
Deux pour le prix d'une. Et qu'est-ce qu'on retient? Ben que
c'est toujours les mêmes qui gagnent.
L'IndyCar, ça se court à 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, et à la fin, c'est toujours la Ganassi qui gagne.
Bah voilà, première course, c'est Scott Dixon qui a gagné. Pourtant, il partait, si je me souviens bien, en fond de top 10. Donc, on s'est dit, bon, allez, il y a peut-être de la place pour que la concurrence puisse gagner. En plus, on avait Newgarden qui était en pole. Voilà, on s'est quand même, bon, allez, là, ça sent bon. Parce que Dixon, il en a gagné deux. Voilà. Et puis, bah, au final, il a eu certains drapeaux jaunes qui l'ont avantagé. Et puis, bah, en fin de course, il a été le plus rapide. Et puis, bah, il a été chercher son troisième damier d'affilée. Et puis tu l'as dit, sur la deuxième course, bah, c'est son coéquipier, c'est Rosenquist qui a été chercher sa première victoire en carrière.
Effectivement.
Deux
victoires Ganassi. Alors, la première, Dixon, je ne vais pas dire qu'elle était attendue, mais vu le début de saison qu'il nous fait, on s'est dit, ça y est, quoi, il nous a assommé le championnat. C'est totalement plié, trois victoires de suite. Je crois que ce n'était plus arrivé depuis Sébastien Bourdais.
Oui, c'était ça. Ouais.
Au milieu des années 2000. Et il visait pratiquement la passe de 4. Le record étant toujours à 7 victoires avec de mémoire et Jeff Hoyt dans les années 70. Quoi. Une autre époque, une autre série, presque. Quoi. Enfin, tellement les comparatifs sont impossibles entre ces deux époques. Alors, Scott Dixon qui s'impose, Lilian, qu'est-ce que tu veux rajouter sur Dixon le samedi, sinon que bah, même en partant de l'arrière...
Il a la baraka, clairement.
Il a la baraka, il bénéficie des problèmes, encore une fois, de ses adversaires, et il maximise ses chances. C'est lui qui a eu plus de soucis le dimanche, avec un arrêt qui a duré bien plus longtemps. Et du coup,
On va y venir sur les arrêts, ça.
Il s'est passé pas mal de choses dans les stands, en fait.
Mais ouais, surtout chez Penske, ouais, faudra en parler de ces trois-là.
D'ailleurs, comment on peut dire en australien se mordre les couilles? Parce que Willpower, il peut se les mordre bien correctement. Hein.
Bah, je sais pas. Je te laisse traduire se mordre les bips. Et puis voilà. Je pense que tu vas trouver assez facilement. Il peut se les mordre, il peut se les manger, il peut faire ce qu'il veut avec.
Sur la première course, c'est Newgarden surtout.
Mais globalement, c'est la Penske cette année.
Mais il y a Denny Hamlin dans les trois voitures, je crois.
Mais tu sais, c'est exactement le comparatif que j'allais faire. On va encore me reprocher de parler de NASCAR en IndyCar, mais j'ai envie de vous dire flûte. On tape tout le temps sur la Gibbs et très souvent. C'est le pauvre Hamlin qui prend parce que ses mécaniciens font tout et n'importe quoi.
Qui prenait.
Mais là, faut être honnête, chez Penske, depuis le début de la saison, il y a quand même de la boulette de compétition.
Bah, à chaque course, t'es sûr qu'il y en a un qui perd la course dans les stands. Et là, sur la première course, eh ben, on a eu Power, puis Newgarden.
Bah, Newgarden qui a le deux fois. Oui, c'est ça, je crois que oui, c'est Newgarden. Voilà, quand t'es pilote Penske, ça la fout un peu mal. Et depuis le début de saison, ouais, tu le disais Geoffroy, on en collectionne déjà beaucoup sur 4 courses. Power a déjà fait plusieurs boulettes, ou du moins ses mécaniciens.
Ouais.
J'ai le souvenir, c'était bah, sur, à Indianapolis, sur le Grand Prix d'Indianapolis, où ses mécanos ont passé un temps fou pour changer les 4 pneus. Là, ouais, il y a eu. Là, c'est de la faute du pilote. Power cale 2 fois. Power, je ne sais plus ce qu'il nous a fait. Non, c'est ses mécanos, pareil, je crois encore une fois, ils ont galéré pour changer de roue. Il n'y a que chez Pagenaud, pour moi, il n'y a rien à reprocher dans les stands.
Oui,
mais les deux autres, ouais, y a matière à dire, c'est clair.
D'ailleurs, Pagenaud, c'était un peu compliqué ces 2 courses à Road America ce week-end. Enfin, compliqué, on devrait dire discret, si ce n'est invisible.
Bah, il part très loin. Sur la première, il finit 12.
Et sur la seconde, bah,
et sur la deuxième,
il termine 13. Il termine 13e en partant 22e.
Et à chaque fois, la première course, il part 17 et la seconde, il part 22. Donc, est-ce que ça veut dire que les Chevrolet Lapinski ont des petits problèmes depuis le début de saison en termes de puissance et en termes de, on dirait pas fiabilité parce qu'il n'y a pas eu de gros soucis mécaniques, mais.
Ouais, mais bon, sur un tour, globalement, on est là. New Garden avait fait la pole le samedi, Power était 5. Le dimanche, bon, New Garden ne fait que 14. Je cherche Power, je le trouve pas. Mais il était 8. Globalement, on n'est pas à se dire, on en chie pour faire un top 10 à chaque séance qualificative chez Penske.
Et pendant la course, en tout cas, soit c'est des problèmes dans les stands. Soit il y a des problèmes de stratégie, soit tout simplement il n'y a pas la vitesse nécessaire pour jouer les premiers rangs. Donc moi je trouve que ça commence à devenir un petit peu inquiétant.
Bah ouais, non, mais je suis d'accord, je suis en train de regarder une stat.
Vas-y.
Power, il est où?
Donc vas-y, le temps que tu cherches ta stat, on va quand même donner le top 10 de cette première course. Dixon qui s'impose justement devant Power. Troisième, le rookie Alex Palou.
Donc, qui sort d'un.
Qui a été exceptionnel.
Oui, son dépassement au virage 1, si je crois, c'était sur Hunter Ray. Quand il plonge à l'intérieur du virage, franchement, 10 sur 10. C'était...
Mais il y a eu plusieurs manœuvres splendides sur les deux courses. Hein. Palou a été une des sensations du week-end pour moi, clairement. Pourtant, c'était sa troisième et quatrième course en IndyCar.
Ouais, comme quoi.
Seulement. Et. Bon, non, sincèrement. Très à l'aise, et puis non, puis il a fait des très très belles manœuvres.
Effectivement. Ensuite, Ryan Hunter Ray, quatrième de cette première course. Lui qui a détesté, je pense, le virage 5.
Ouh là là.
Il
s'est fait avoir plus d'une reprise.
Ça a été un calvaire pour lui, le virage 5, tout au long de cette course. Mais bon, c'est comme ça. C'est l'une des rares opportunités de dépassement à Road America. Et Hunter Ray s'est fait surprendre pratiquement à chaque tour. Enfin, j'exagère, mais à chaque fois qu'il y avait une opportunité pour les adversaires, c'était au virage 5 que ça passait. Colton Herta fait 6e devant Santino Ferrucci. Graham Rahal fait 7e. Pato Howard 8e. Takuma Sato 9e. Et Marcus Ericsson 10e pour cette première course.
Colton Herta fait 5, pas 6.
Colton Herta fait 5. Alexander Rossi, encore une fois, 19e. Ça fait désordre avec à l'issue de la comment à l'issue de la troisième course de la saison. Alexander Rossi, il est 22e du général avec 31 points.
Ah ouais, bah si, quand tu t'appelles Rossi, que tu es le fer de lance, maintenant le fer de lance de l'écurie Andretti, puisque c'est plus Hunter Ray malheureusement, c'est clair que là ça part très 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 mal.
Heureusement, il rentre 35 points dans la seconde course de Road America, ce qui fait qu'il remonte à la 18e place du classement général. Mais après 4 courses, Alexander Rossi, 18e du classement général, avec 107 points de retard sur Scott Dixon, leader, ça la fout mal. Ça, quand on sait qu'on dit Rossi faire de lance Andretti, ça pique.
Les courses avec les points qui comptent double vont valoir d'autant plus cher pour Rossi.
Parce que oui.
Admettons qu'il se plante à l'Indy 500, ça va être très compliqué pour lui de s'en remettre.
Ce qui impressionne dans le mauvais sens du terme cette année, c'est la fiabilité des voitures Andretti. Justement, je parlais de fiabilité. il y a quelques secondes, mais là, Andretti, Rossi a encore connu des soucis pendant la première course. Je crois qu'il y a eu soucis de frein en fin de course, de mémoire. C'est pour ça qu'il est fini à 19e à un tour. Mais c'était, c'est pas la première fois qu'il connaît des soucis mécaniques au cours d'un event cette saison. Et heureusement qu'il termine sur le podium sur cette deuxième course, effectivement.
Et pourtant, la Andretti est motorisée par Honda, comme la Ganassi, qui a gagné les quatre courses.
Comme quoi, c'est peut-être pas qu'un problème moteur, il y a peut-être un problème d'exploitation chez Andretti, il y a peut-être tout un tas de circonstances, mais c'est vrai que c'est étonnant et dramatique pour Rossi, qui est clairement le fer de lance de la Andretti ces dernières années, qui était en lice pour le titre pas plus tard que la saison dernière, si je me souviens bien. Donc, voilà, ça peut être problématique. Du coup, Lilian, le samedi s'achève comme ça à Road America, en se disant on a une autre course le dimanche, avec des qualifications, avec tout ce qui s'ensuit. Et on se dit, est-ce que ça peut être bis repetita pour notre ami Scott Dixon ?
Savoir qu'il partait sixième.
Qui partait sixième, donc un peu mieux classé le dimanche que le samedi. Et en fait, ben non. Déjà la pole de Pat Howard, le rookie. Ouais. Et des jeunes qui ont encore une fois été très très bons sur l'ensemble de cette course. Quand on regarde le top 10, on va citer le top 10 avant de s'arrêter plus spécifiquement sur le vainqueur. Félix Rosenquist, Pat Howard, Alexander Rossi, Marcus Ericsson, Colton Herta, Santino Ferrucci, Alex Palou, encore une fois, Takuma Sato, Joseph Newgarden et Charlie Kimball. C'est pas forcément, Lilian, je sais pas ce que t'en penses, mais un top 10 qu'on a l'habitude de voir, et c'est pas forcément ces noms-là qu'on a envie de citer pour un top 10, quoi. T'as pas de Dixon, pas de Power, pas de Pagenaud, ça fait beaucoup.
Je recherchais, j'ai bien vérifié la stat que je cherchais tout à l'heure, c'est ça, sur les deux courses, dans le top 10, tu n'as qu'un seul des trois pilotes Penske.
Oui.
Donc, les trois Penske, logiquement, voilà, tu les as dans le top 10, c'est le minimum syndical quand tu roules pour Penske.
Ouais.
Donc, voilà, Power sauve une deuxième place sur la première, mais là, voilà, sur la deuxième, la meilleure est classée 9e, quoi.
Ouais, Penske, c'est simple, hein, c'est 9e, c'est 11e, c'est 13e. Et...
ouais, c'est ça.
Ouais, je suis d'accord avec toi, Lilian. Le top 10, c'est le minimum syndical. Là, tu es en dehors du top 10 pour les deux tiers. Et je pense que pour la plupart, c'était relativement discret, ou tout du moins par rapport à ce qui nous habitue sur le reste des courses.
Et puis, tu le vois en plus, hein, c'est... quand tu regardes les manufacturiers, tu as quasiment que du Honda dans le top 10. Mm. Là, sur la deuxième course, t'as que trois Chevrolet. T'as Howard, qui est deuxième, Newgarden, 9, et Kimball, 10.
Ouais, sur la première, t'en as que deux. Hein.
Ouais, voilà, tu vois, c'est encore pire.
J'ai
ouais.
L'impression que les Honda sont beaucoup plus performantes que les Chevrolet, et je pense avoir déjà fait la remarque ces dernières semaines.
En rythme de course, oui, clairement. Les Honda sont
au-dessus. En plus, là, c'est un circuit très rapide. Peut-être qu'en vitesse de pointe, ouais, le bloc Honda a peut-être plus de vitesse de pointe que le moteur Chevrolet. À voir peut-être sur des circuits plus sinueux. Mais bon, comme cette année, il n'y aura pas de Grand Prix urbain à part Saint-Pit en octobre. Mm. Et encore, hein, voilà, enfin, c'est...
Et j'ai regardé, on n'a que 6 pilotes qui ont fait top 10 sur les deux courses de Road America. Enfin, et quand on voit les noms, alors c'est pas pour les dénigrer, mais c'est pas ces noms-là que tu attends. Alex Palou, Colton Herta, Santino Ferrucci, Pat Howard, Takuma Sato, Marcus Ericsson.
Ouais, c'est clair.
C'est pas ces noms-là que tu
t'as
évoques.
T'as pas Andretti.
C'est ça. T'as pas Dixon, t'as pas Power, t'as pas Pagenaud.
Rosenquist, il n'a pas fait top 10 dans la première.
Non. Ah non, il fait 18e.
Ouais, c'est ça. T'as pas de Penske, t'as pas de Ganassi, t'as pas de Andretti. Cherche l'erreur, quoi.
Si, t'as Ericsson.
Est-ce qu'on n'aurait pas une redistribution des cartes cette année en IndyCar?
Bah, une redistribution des cartes avec un Dixon qui survole le championnat.
Il sauve Dixon, évidemment.
Ouais, mais bon, on a quand même jeunesse. T'as quand même. Enfin, je pense à Herta qui nous fait quand même un super début de saison.
Mais je regardais justement le classement général. Certes, bon, sans surprise, Dixon est devant, hein, ça surprendra personne. Hein, mais en seconde place au classement général, c'est Colton Herta, justement. Et quand tu regardes ses résultats cette année, c'est quand même 7e au Texas, 4e au GP d'Indianapolis et deux fois 5e à Road America.
Ah, c'est pas dégueu.
Et t'as Pato Howard qui lui est 4e du classement général
Non, il est
avec
troisième.
12e au Texas, deux fois 8e à Indy puis à la première course de Road America et du coup second, premier podium en carrière sur la seconde course à Road America.
Il est
C'est quand même
troisième, hein.
insigne.
Il est troisième. C'est pas Genoa qui est quatrième. Ils ont le même nombre de points, mais.
J'ai dit quoi?
T'as dit quatrième. Donc voilà. Et enfin, surtout, Dixon, après quatre courses, il a une course d'avance sur le deuxième, Colton Herta. Il y a 54 points d'écart entre les deux hommes. Ensuite, quand Howard et Pagenaud sont à 63 points, c'est juste colossal quand même avec un Dixon qui se rate sur
Oui.
la seconde course en ne faisant que 12e à près d'une minute du vainqueur.
Et tu peux rajouter Joseph Newgarden à 67 points de retard, cinquième, qui reste à peu près dans la même fenêtre que Pagenaud et Howard.
Oui, en fait, c'est comme l'année dernière. Le championnat est super serré si t'enlèves le premier. Parce que si je
Ouais.
me
Et
souviens
encore.
bien, l'année dernière, Newgarden était un pied au-dessus de tout le monde, quoi.
Et encore
Derrière.
Dixon, sa 12e place, c'est à cause de ses mécaniciens. Ah non, il a calé, c'est pas
Mais non,
celui
il
qui a dans le
cale, eux,
peloton,
ils
pardon.
calent. Et...
Il a calé, il nous a fait une power.
Donc,
Mais du
oui.
coup, juste pour conclure sur le classement général, on a quand même Ericsson et Rosenquist 6 et 8. Donc, pour rajouter à l'eau du moulin de la Ganassi, qui est au-dessus des bas cette saison.
On a peut-être trouvé quelque chose chez Ganassi, ouais.
On a peut-être trouvé quelque chose. Bah, c'est pas mal, hein, l'année où c'est Roger Penske qui prend en main l'IndyCar. Que ce soit le grand rival qui soit devant, c'est...
Après, est-ce qu'on a trouvé des choses via l'introduction de l'aéroscreen?
Peut-être aussi.
Ça doit jouer, j'imagine, sur les réglages.
Alors, messieurs, la course du dimanche, on a parlé du vainqueur, on va s'y attarder un petit peu plus. Félix Rosenquist, première victoire en carrière. Et donc, Lilian, t'as la stat, premier pilote à
Ah, tu veux
remporter
que je ressorte mes petites
sa.
stats que j'ai vues pendant le direct?
C'est ça,
Allez.
premier pilote à remporter sa première course en carrière à Road America depuis Tagliani.
C'est ça, le plus avant lui, le plus, on va dire, la première victoire la plus récente en carrière sur cette piste, c'était Tagliani en 2004. Sa seule et unique victoire d'ailleurs en IndyCar.
Effectivement, c'est pas forcément la piste sur laquelle on a des premières victoires en carrière, mais on a quelques noms.
On en a six surtout, ouais.
On en a six. On avait Tagliani, on avait Kyloz, on avait un Christian
Junquera, je ne
Fittipaldi.
sais plus comment on prononce en 2001.
Ouais, Bruno Junquera en 2001, Christian Fittipaldi en 99.
Ouais, après Franck Hity, le plus connu en 98, la première de ses 31 victoires en carrière.
Ouais, Jacques Villeneuve en 1985, l'oncle du pilote du commentateur de Canal+.
Voilà, qui lui en avait gagné une en 94, sa
Ouais.
première. Et la plus ancienne, c'était Hector Rebaque, le Mexicain en 82.
Effectivement, voilà, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus.
Voilà, je me suis dit, tiens, c'est de la bonne stat pour l'émission,
C'est bien, c'est bien, c'est bien, t'as
ça.
raison. C'est bien, t'as raison. Je note que tu mets de bonnes stats, tu auras donc un bon point.
Je demanderai une prime à Arnaud pour la paix.
C'est ça, oui. Alors, on a fait un petit peu le tour de Road America, messieurs. Ce week-end, c'est l'Iowa. Donc, Aloïs, c'est l'Iowa. Un ovale de 7 huitièmes de miles,
Oui.
situé dans cette très belle ville de Newton, donc dans l'Iowa.
Pour l'instant, je suis d'accord avec toi.
Pour l'instant, tu es d'accord avec moi.
Ouais.
Ce sont deux courses nocturnes, le vendredi et le samedi, donc soir.
Est-ce que tu peux m'en dire plus?
Plus?
Oula.
Plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus?
J'en demande trop à l'IndyCar, là.
Oh, bah, je sais pas. Par exemple, la liste des engagés? Ou alors l'heure du green flag?
Va te faire foutre.
Non, je ne communique pas directement à l'IndyCar. Il faudra leur envoyer un mail, je pense.
Ce qu'il faut savoir, c'est que hors antenne, à chaque fois, Loïs nous demande, pour les pronostics, si tel ou tel pilote est engagé pour la course. Mais Geoffroy ne peut pas lui répondre puisqu'il n'a pas la liste des engagés à l'heure où on enregistre l'émission.
Et encore, cette semaine, on l'enregistre une journée plus tard que d'habitude.
C'est en plus.
Un jour, on fera l'émission le dimanche et je suis sûr qu'on n'aura pas la liste des engagés.
Qu'Aloïs voulait savoir si Alex Pigott allait être engagé pour ce week-end.
Non,
Ben, on ne le sait pas.
Spencer Pigot, parce que Alex, ça doit être son frère
Ah
jumeau.
oui. Spencer, Alex, oh là. Spencer, ouais.
Non, donc, bon, écoute.
Et tout ça pour dire qu'on sait que ça se passe dans l'Iowa, de nuit, mais...
Drapeau
on n'a
vert.
Pas beaucoup plus d'informations.
Ça va être vers 21h en heure locale, hein, d'après les infos qu'il y a sur le site de l'IndyCar. Prise ouais. d'antenne à 20h30.
Oui, oui. C'est...
Ça doit être vers du 21h, donc 2h du matin en France, hein, si on fait du plus 6.
Plus 7 même, l'Iowa.
Ah, ouais, mais c'était en heure de la côte Est.
Ah oui, donc oui, ok. Bon, écoute, on reverra ça, on vous tiendra au courant dans la semaine, dès qu'on a les infos officielles, bien évidemment, on vous les communique. Aloïs, je t'inviterai, comme les auditeurs, à aller voir sur usracing.com.
Comme toujours.
Oui, comme toujours.
Tom, il regardera pas la course en direct, il s'en fout.
Ah bah oui, là, de nuit, c'est certain que je la verrai pas en direct, c'est ça.
Bon bah voilà. Tu regarderas ça à l'hôtel, tranquille.
Et mais il y en a deux quand même, hein. Ne l'oubliez pas. Ça peut d'ailleurs être intéressant d'avoir un double header sur Oval. Ça peut...
Mais pour Aloïs, la All-Star était hier déjà, donc...
Oui, c'est vrai.
Non, mes doigts ont pas écrit ce que je voulais dire. D'accord.
Ah, c'est compliqué.
Monsieur... Non, c'est pas la All-Star, c'était l'Open, pardon.
Ouais, monsieur a des mains avec trop de doigts, quoi. Ça devient fou. Mais bon, c'est pas grave. Je crois que la page IndyCar, on va la refermer, parce que sinon, ça va partir en cacahuète. On va passer au j'aime, j'aime pas. Et Lilian, je t'écoute.
Ah, je vais commencer avec mon j'aime. Une belle info que j'ai vue hier. Bah c'est Ford qui a décidé de commercialiser à partir de 2021 un modèle emblématique, un SUV que j'aime bien, c'est le Ford Bronco.
Plus connu pour être le Ford d'escapade d'un certain O.J. Simpson. Non mais c'est vrai, sa course super médiatisée sur l'autoroute à Los Angeles, c'était au volant d'un Ford Bronco.
D'accord.
Et voilà, c'est... ça joue pas mal dans le néo-rétro, il y a quand même pas mal d'évocations au modèle... on va dire originel du milieu des années 60. Et s'il pouvait être commercialisé en Europe, ça serait sympa, comme ils l'ont fait avec la Mustang.
Et il est commercialisé, enfin il est construit à Denver, non? C'est un rapport avec les Broncos de Denver? Je sais pas, je demande.
Alors là.
Est-ce qu'il y a un lien de cause à effet?
J'en sais absolument rien. Je sais pas s'il y a une usine Ford à Denver, j'en doute.
Ok. Et ton j'aime pas du coup?
Bon, j'en ai pas.
Ok, Aloïs.
Je laisse à Aloïs le PG1 et compagnie.
Bah du coup, je vais commencer parce que Lilian a vendu la mèche. Mais j'ai longtemps hésité. Pour moi, j'aime pas. Je me suis dit, je pourrais parler du PG1 parce que c'est de la merde. J'ai hésité avec le PG1 parce que c'est vraiment de la merde. Et que là, je me suis dit, bon... Moi, j'aime pas cette semaine, ça sera le PG1 parce que c'est vraiment, mais alors, vraiment de la grosse merde.
D'accord, ok.
Merci.
Et ton j'aime?
Et mon j'aime, bah, c'est le petit week-end que je viens de passer en famille dans la campagne. On a bien bu, on a bien mangé dans le Jura. Donc, le petit vin jaune qui va bien avec le fromage, je n'en demande pas plus.
Le vin jaune, vin blanc peut-être?
Ah non, le vin jaune.
Vin jaune?
Vraiment.
Un vrai vin.
Et oui, et je le recommande fortement à tous ceux qui sont épicuriens et qui aiment les bons vins. C'est un vin typiquement jurassien et c'est toujours une réussite.
À consommer avec notre grand ami, modération.
Et pas l'impression, non.
Donc, ok. Donc, du coup, c'est à moi.
Et toi, Geoffroy, j'aime pas?
Bah oui, j'ai un j'aime. La All-Star en pleine semaine. Je pense que ça peut nous ouvrir des portes, cette histoire, pour la saison prochaine. Vu que le calendrier va être fou l'année prochaine, hein. Tony Stewart a décidé de rajouter 6 courses avec son nouveau championnat qu'il crée avec Ray Evernham. Donc va falloir trouver de la place, et bah, la place, quand on a pas le week-end, c'est en semaine. Voilà. Et mon j'aime pas, bah, c'est les vacances que je devais avoir la semaine prochaine, qui sont raccourcies de 3 jours, tout ça pour aller faire une formation de merde qui va me servir à rien, parce que je connais déjà tout. Pour un prochain boulot.
Bon, il est bon, je crois.
Mais non, mais c'est pour un prochain boulot et le truc, ça va me servir à rien. Et bon, c'est pas grave. C'est la boîte qui paye, il faut donner des sous à une autre boîte et tout va bien, quoi.
Bon, tu fais acte de présence puis tu rédiges tes articles pour US Racing.
Bah, si seulement je pouvais faire ça. Si seulement je pouvais faire ça. En plus, j'avais prévu totalement autre chose, mais bon, c'est pas grave. Les plans qui tombent à l'eau, c'est la vie. Messieurs, la NASCAR. La NASCAR, c'était du côté du Kentucky, avec la vaseline sur la piste. Aloïs, t'en as parlé.
Oh là là, c'est terrible. Hein. C'était encore pire en début de semaine, enfin début de week-end avec la Xfinity.
Oui.
Bah, comme prévu, bah, ça a pas marché, quoi.
Bah oui.
Ça a eu l'idée géniale de limiter la ligne de course. Donc, auparavant, on avait, je pense, quand même deux, si ce n'est trois lignes de course utilisables. Mm-hmm. Là, avec le magnifique PJ1, on n'en a plus qu'une.
C'était quel pilote entre eux que Geoffroy, tu nous disais, il pouvait pas mettre une roue dessus.
C'était Ben Rhodes.
Tu nous as partagé.
C'était de mémoire, c'était Ben Rhodes.
Non, mais on a très bien vu avec les pilotes des catégories inférieures. C'était impossible de se mettre à deux de front dans les virages.
Bah ouais, et puis ben, je veux dire, sur un ovale d'un mile et demi, se mettre à deux de front, c'est une aberration, quoi. Faut y être sur un short track, mais pas sur un ovale d'un mile et demi. Les ovales d'un mile et demi, il faut pas doubler.
On a quand même dit ces derniers mois que le PJ1 ne servait pas à grand-chose. Là, il sert carrément à un effet négatif.
Bah en fait, c'est ça, c'est qu'au lieu d'augmenter le nombre de trajectoires, il les diminue.
Eh oui. Donc, je vois pas pourquoi la NASCAR a le foutre.
Bah, je pense qu'ils se sont plantés dans la composition chimique et ils ont repris la composition de la vaseline. Quoi. Pour que ça glisse autant, à mon avis...
C'est terrible.
Il y a peut-être quelque chose à faire où il faut peut-être mettre de la vaseline, tu vois, et ça adhérerait un peu mieux, quoi.
Et puis cette semaine, on va encore en avoir pour la All-Star.
Bah oui, oui, mais bon, c'est pas grave. Après, c'est le Texas, c'est pas comme si au Texas, il n'y en avait pas.
Oh. Non, mais en plus, ce qui est terrible, c'est qu'ils arrivent à dénaturer quand même un ovale de Kentucky qui est relativement atypique pour un ovale d'un mile et demi, oui. Et qui était somme toute sympa. Avant que la NASCAR décide d'expérimenter leur mauvaise idée.
Tant que les pilotes ne monteront pas au créneau, c'était ce que je disais ce week-end, on en parlait.
Oui, il faut...
Je sais pas, apparemment, les pilotes, tu les entends en interview, ça va, quoi. Mais bon, je trouve que ça renforce encore plus la position sur la piste. De toute façon, on le voit sur les restarts. Hein. Celui qui gagne la bataille au restart, c'est terminé, hein.
Eh ben parlons-en justement de la bataille
des restarts. C'est fini, t'es tranquille. Hein.
Oui, vas-y, Eloïse, parle de la bataille des restarts.
Bah, le dernier restart de la course.
Ah oui.
Ben oui, justement, c'est peut-être le point fort de cette course de Kentucky et la chose dont il faudra se souvenir pour le reste de la saison.
Donc en fait, t'es en train de dire que finalement, le PJ1, c'est bien.
Bah non.
Bah si, parce que c'est le point fort de la course, c'est grâce au PJ1.
Ah bon?
Ben oui. Parce que sans le PJ1, on aurait plein de trajectoires naturelles et du coup, les pilotes, bah, ils y seraient aussi. À 4 de front. Non, je sais pas. Je suis parti dans un délire tout seul. Mais. Enfin, oui, honnêtement, il n'y a que ça à retenir. Enfin, Cole Custer qui tente, qui passe à 4 de front. Et qui rebondit
sur le dernier restart.
Oui, qui repart sixième, qui rebondit sur Ryan Blaney, qui lui-même va s'encastrer dans Kevin Harvick, qui lui-même manque de sortir Martin Truex Jr.
Et au final, c'est le rookie qui empoche sa première victoire en carrière à Kentucky.
Et qui se qualifie pour la All-Star.
Et qui se qualifie pour la All-Star de 4 jours plus tard.
C'est ça, et pour la All-Star de l'année prochaine aussi.
Harvick, il y croyait à sa première victoire au Kentucky.
Il y croyait. Et comme ça,
C'est la seule piste sur laquelle il n'a pas gagné avec le routier de Charlotte.
C'est ça. Il n'en a jamais été aussi près de sa première victoire.
Et ça la fout mal quand même hein, pour Almirola et Bowyer, je trouve, chez Stewart Haas.
Ah bah, Almirola a été là en début de course. Et
ça fait plusieurs semaines qu'il est là. On ne l'a pas vu en début de saison, mais c'est vrai que là, ça fait 3-4 semaines qu'il est. On le voit aux avant-postes, c'est clair.
Et puis, ben, il a été doublé par le clean air et ça a été fini.
Ah, mais c'était rédhibitoire. Harry Calmirola a mené 128 tours sur l'ensemble de la course. Je suis prêt à parier que c'est les 128 tours du début de course.
Ah oui, Alex Bowman. Harry Calmirola, c'est en tout début de course qui mène. Si tu veux que je te ressorte les stats, je peux parce que
je viens de la trouver.
Je les ai sous les yeux.
Du tour numéro 10 au tour numéro 137. Et c'est tout.
Oui, bah oui.
Il se fait dépasser par Ryan Blaney à la régulière, et une fois dans le trafic, et ben impossible de retrouver la première place, et il aura navigué une bonne partie de la course au fond du top 10, fond du top 15.
Effectivement, c'est problématique, et pour moi c'est pas dû au PG, c'est pas dû qu'au PG1 ce problème.
Non.
Le problème de Clean Air, on peut pas l'imputer au PG1.
Non, mais en tout cas, ça renforce cet effet d'importance de position sur la piste.
Oui, voilà, c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt le PG1 qui renforce l'effet d'importance du Clean Air. Mais bon, c'est quand même compliqué. Et on voit bien que, quel que soit le pilote, quand il est devant, il est tranquille. Et seuls les restarts sont agités. Ce qui pourrait être tentant pour la NASCAR d'aller mettre des petits drapeaux jaunes de temps en temps, histoire qu'il se passe quelque chose, histoire de secouer le cocotier d'Aloïs.
Bah, c'est pour ça qu'ils ont mis en place les segments. Hein.
Oui.
On a enlevé les drapeaux jaunes pour débris imaginaires et puis on a mis les segments.
Et puis les segments, c'est pas. Les restarts des segments, je veux dire, c'est pas les endroits où on a souvent du grabuge en plus.
Non, pas toujours.
Mais en tout cas, s'il faut retenir une chose de cette course, eh ben, ça serait le dernier restart. Puisque c'est là où on a eu le plus d'événements et la plus grande surprise du Kentucky.
Oui, parce qu'on est bien d'accord, Aloïs, que si on devait citer un pilote pour sa première victoire cette saison, c'était pas forcément Cole Custer qui venait en premier nom.
Oh, ça aurait plutôt été Byron.
Cole Custer.
Toi, t'aurais mis Cole Custer.
Ah non, j'aurais pas mis, justement.
Ah oui, d'accord. Oui, parce que des Tyler Reddick ont fait de belles choses. Christopher Bell... c'est un peu limite avec le matos, même si c'est soutenu par la Gibbs. Je pense que...
pour cette saison, on va le laisser apprendre.
Ça peut être compliqué d'aller gagner, mais oui, un Tyler Reddick chez les rookies, ça le faisait.
Un Nemechek, ça aurait pu aussi. Hein.
Ouais, mais bon, je pense que Nemechek, il y a un plafond de verre.
Ouais, c'est comme Bell. Il y aura le matos, c'est pas suffisant pour aller chercher une victoire à la régulière.
Je veux dire, à part sur un Oval à plaque...
Ouais, mais tu vois, j'ai l'impression d'avoir plus vu à l'écran un Nemechek qu'un Bell.
Oui, mais parce que Nemechek, on en parle plus parce que c'est front row, alors que Bell, c'est affilié Gibbs.
Et ceci dit, Christopher Bell, c'est quand même des beaux résultats depuis un bon mois. Hein.
Et puis là, c'est encore septième.
C'est septième. La semaine dernière, c'était 12. À Pocono, la première course, il fait 4 et il faisait 8 à Homestead.
Oui,
après c'est toujours derrière, enfin, c'est régulièrement derrière un autre rookie, donc on en parle moins. Mais Christopher Bell fait pas une mauvaise saison.
Oui, mais il est jamais derrière le même rookie, donc en fait, du coup, au classement rookie, il s'en sort pas trop mal. Bah oui, non, mais vous rigolez, vous vous foutez de moi, mais.
Non, mais jamais.
Non, jamais, oui, bien sûr, oui, c'est ça, espèce de peintre.
Ah. C'est Reddick qui est premier au classement des rookies.
Ouais.
Et Custer a 50 points de retard et Bell en a 62.
Ouais, c'est ça.
Non, mais Custer, il s'en fout, il a gagné, donc il est dans les playoffs.
Oui, c'est ça, Custer est dans les playoffs en étant que 20e du classement général. Donc pour l'instant, il nous dégage Justin Dillon, ce qui n'est pas pour déplaire à Loïs.
Je ne dis pas non.
Et là, pour Kenseth, ça se complique. Hein.
Et là, pour Kenseth, ça commence à... faut viser la 15e place.
Ah bah, sans victoire, ça va être très compliqué. Là.
Oui, sans victoire, ça passera pas. Malheureusement. Malheureusement, alors qu'il y avait que 4 courses de retard.
Bah là, il a quasiment 200 points de retard.
Oh, mais à part la première course de Darlington et... c'est quoi, c'est Indianapolis, tout le reste, ça met à la corbeille. Hein.
Ah bah oui, c'est... tout le reste, c'est du très mauvais Kenseth les jours où la voiture n'allait pas, quoi. Globalement, c'est... mais bon...
Je suis en train de voir quelque chose. Vous voulez la stat qui tue ?
Non, mais tu vas quand même nous la donner, donc vas-y.
Allez, vas-y, impressionne.
Alors, Cole Custer a autant de points de playoff, donc 5 pour la victoire, que Kurt Busch, Kyle Busch, Di Benedetto, Bowyer et Byron combinés.
On en parle quand même de Kyle Busch. Ça fait un an. En un an, il a gagné qu'une seule course. Alors, ok, c'était la plus importante, mais il n'a gagné qu'une seule course en un an.
Et oui, parce qu'il a 0 victoire, 0 point playoff, et du coup, bah, je me doute, 0 segment sur l'année.
Hmm. La dernière course qu'il a gagnée, c'était Homestead. Et je crois que dans le combiné, ses coéquipiers de la Gibbs en ont gagné une palanquée. Parce que Hamlin est déjà à 4 cette année. C'est bien ça.
Ouais, plutôt, oui.
Truex est à une victoire, donc ça fait déjà 5. Et l'année dernière, Jones en avait gagné une, donc ça fait 6. Truex et Hamlin en avaient gagné d'ici la fin de saison. Je crois qu'ils sont à 11. 11 victoires pour une seule pour Kyle Busch.
Après, c'est difficile de dire que Kyle Busch fait une mauvaise saison.
Ah, je dis pas qu'il fait une mauvaise saison, je dis juste qu'il
en
gagne pas.
En termes de victoire, c'est vrai que c'est un peu sec depuis une bonne année. On est d'accord. Mais après, sur le plan comptable, tu es au niveau de pilotes comme Ryan Blaney, Chase Elliott, Arek Almirola.
Oui, et puis
c'est pas le même
pedigree
non plus.
Et Brad Keselowski.
Oui, et puis sur une année coulante, t'as qu'une seule victoire, mais t'as un titre, quoi. Donc tu peux faire un gros fuck à tous les autres, quoi.
On est d'accord.
Mais c'est vrai que quand t'es champion sortant, c'est très très light, hein. C'est pas.
Oui, mais.
On l'a déjà dit, on est habitué à voir Kyle Busch courir dans les trois séries, aller en gagner parfois trois.
Oui, mais voilà, quoi.
Et là, ouais, Kyle Busch, on ne le voit plus sur la victory line, quoi. Alors, est-ce que c'est dû à Toyota qui est un peu en retrait et Ford qui est vraiment au-dessus et Chevrolet qui est sur le retour?
Non, non. Enfin, je pense que c'est un ensemble de choses, que c'est aussi que Kyle Busch manque d'essais et qu'il a besoin de ses essais. Voilà, je pense que c'est un tout. Mais après, attends, tu regardes le classement en général, Kyle Busch, bon, ok, il est 11e.
11e non, à 7 top 5, hein. 7 top 5 en 17 courses.
11e à 200 points, enfin 198. C'est pas non plus dégueulasse, hein. Il y en a beaucoup qui devraient être devant Kyle Busch, hein. Quand tu regardes bien dans les gens qui sont derrière Kyle Busch, t'as quand même du Bowyer, t'as quand même du Byron, t'as quand même du Johnson, t'as quand même Eric Jones qui est son coéquipier.
C'est pas... Ouais, à part Johnson, c'est pas des pilotes qui ont le même pédigré que lui, hein. Kyle Busch, faut le rappeler, est quand même double champion.
Oui, mais
après,
si on compare.
Si on parle des points, t'es qu'à seulement 20 points de la 8ème place.
Oui.
C'est pas grand-chose.
Et puis de toute façon, ce qui compte, c'est les points de play-off. Suffit qu'il gagne 4 courses d'ici la fin d'année, enfin la fin de la saison régulière, ce qui est totalement jouable, sur un malentendu. Et puis voilà.
Au vu de sa forme actuelle, j'y crois absolument pas.
Ah bon? Je comprends pas.
Je comprends pas.
Non, je vois pas.
Mais en tout cas, on parle de Gibbs. Mais Martin Truex Jr., comeback, enfin, on le voit aux avant-postes.
Ouais, Martin, enfin,
est-ce que c'est le retour ou c'est... Voilà, il était là sur cette course, et puis ce week-end au Texas, est-ce qu'il sera là ou complètement aux abonnés absents?
Tu penses que la rechute est possible?
Bah, le problème, c'est que la guise, regarde, même Hamlin, hein, c'est soit ça joue la gagne, soit on le voit pas. Hein.
Et,
c'est tout rien cette saison, et l'écurie, c'est ça.
Et les deux sont à 10 points d'écart au classement général, 6e et 7e.
Ce qui est d'autant plus marrant, parce que l'un a 4 victoires, et l'autre, on a l'impression qu'il rame depuis le début de saison.
Oui.
Mais il doit être beaucoup plus régulier.
Bah, c'est que, en fait, c'est, comme tu disais, Denny Hamlin, ça peut faire premier, ça fait top 5, pour englober une bonne partie des résultats, ou ça peut faire en dehors du top 25.
Ah bah oui, oui, c'est complètement ça. J'ai même plus son résultat de la course de ce week-end, mais ça n'a pas été bien brillant.
Denny Hamlin, il est 12e.
Ouais.
12e sans marquer aucun point de segment.
Ouais.
Après, vu comme la course du week-end était fluide, pour prendre un qualificatif positif, c'est sûr qu'on n'a pas vu grand monde. Hein, parce que je pense que, hormis le dernier restart, où on peut parler des 4 de front, Custer, Truex, Harvick et Blaney. Je sais pas quel autre pilote on pourrait citer. Si, Arek Almirola, on en a déjà parlé. Mais au-delà de ça, je vois pas qui a marqué le week-end en Cup.
Regarde, là, je ressors les résultats par les Damlin. Il fait 17 à Vegas, il fait 20 à Phoenix, il fait 29 au Coca 600, 17 à Bristol, 24 à Martinsville, 28 à Indianapolis, 12 au Kentucky, et après, le reste, c'est que du top 5.
Au final, Hamlin, on compte ses points de playoff. Il y a 23. Hein.
Oui, Hamlin met une claque. Et puis, de toute façon, après, c'est pas que ça veut rien dire, le classement général. Mais on a tellement vu que tout se joue sur la forme du moment sur les 10 dernières courses que ce qui compte, c'est d'être dans les 16. Et on va dire d'avoir peut-être un petit momentum pas trop dégueulasse sur le dernier mois de saison régulière.
Tu claques une victoire sur les 6 premières courses pour éviter de se faire sortir comme un malpropre.
Ouais.
Tout dépend de si tu es vraiment en fond de top 16 ou si tu es en milieu de paquet, entre guillemets. Mais en tout cas, Harvick, il reste au sommet de la hiérarchie. Je pense qu'il n'y a rien à dire par rapport à ça.
Non, je pense que...
Harvick, s'il passe le triptyque où il y a Talladega, parce que c'est un peu son porte, c'est un peu là qui se plante, il peut aller au bout.
Oui, parce que le dernier triptyque est favorable.
À chaque fois, il se fait avoir. Donc,
ouais. Mais enfin, là, pour l'instant, au niveau des bookmakers, et après, on va parler un peu d'autre chose, c'est Kevin Harvick qui est le favori pour le titre.
Ce qui me surprend pas du tout.
Ce qui n'est pas déconnant au vu des 17 premières courses de la saison.
Ouais, et puis c'est surtout le lieu de la finale.
C'est vrai.
Ah, ouais,
c'est vrai que le lieu de la finale peut l'aider.
Je pense qu'il y a aussi les bookmakers sont influencés par le lieu de la finale. Hein. La finale aurait été à Martinsville, ça aurait peut-être pas été pareil.
Oui, enfin bon, Phoenix, Amelin à Phoenix, c'est pas non plus dégueu. Je veux dire, comme on disait la semaine dernière, on en a déjà deux sur les quatre en finale si tout va bien.
Oui, non, c'est clair.
Comme l'année dernière, on avait Kyle Busch, Truex et Hamlin, je crois, en finale, ou presque des. Non, et Harvick, peut-être. Depuis un bon moment, quoi. Donc, on verra comment ça évolue, bien évidemment. On va suivre ça sur la fin de saison régulière. Harvick et Hamlin sont pour l'instant au-dessus du lot. Même si Hamlin, à l'image de la Gibbs, fait le yo-yo d'une course à l'autre. Mais bon, c'est comme ça. Et je ne sais pas si vous avez vu, messieurs, sur la course, sur la Victory Lane, Colcaster, qui a quand même remporté un jukebox. Quoi. On parlait des trophées à avoir en fonction des différentes courses, l'horloge de grand-mère à Martinsville, l'aigle de Pocono, le trophée de Daytona, la planche de surf en Californie, le vin à Sonoma. Et ben, au Kentucky, là, cette année, c'était un jukebox.
Et pourquoi un jukebox? Il y a une fabrique à proximité, dans cet état?
Bah, je te laisse faire la recherche.
Oh.
C'est juste que j'ai la photo sous les yeux, c'est pour ça que je dis ça. Mais...
Et t'as pas la marque du jukebox que je tape directement ça?
Oh non, mais t'es casse-couille.
Ah ouais, non, mais moi...
Et tout ça pour dire que la course de Kentucky était super intéressante, puisqu'on parle pas du tout de la course en elle-même.
Bah, vas-y, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Non, mais tu nous as.
En vrai, il n'y a rien à dire.
Tu nous as cassé les glaouis, pour reprendre une expression un peu gentille de tes amis des guignols il y a quelques années, pendant ton j'aime pas, en disant que le PJ One c'est de la merde. Après, tu as redit que le PJ One c'est de la merde, et encore, le PJ One c'est de la merde. Sachant qu'au Kentucky, ils ont foutu de la vaseline, ben c'est bon, on a fait le tour, quoi. On peut passer directement à la All-Star.
Allez.
Enfin, je sais pas. Mais bon, après, je veux bien. On peut parler une demi-heure pour ne rien dire. Ça fait déjà trois quarts.
Ah non, mais je vais dans ton sens pour te dire qu'il n'y a vraiment rien à dire sur cette course, au final. Et c'est peut-être la première course depuis un long moment où on n'a vraiment rien à dire.
Ah ouais, à part que le PJ One, c'est de la merde.
À part que le PJ One, c'est de la merde, évidemment.
Ok. Bon, bah écoute, on embraye sur la All-Star, qui aura lieu à Bristol, cette nuit, avec du PJ One, pour te faire plaisir.
Ouais.
Ouf, ouais.
Peut-être que pour faire des drifts, ça marche mieux, qui sait.
C'est ça. Eh ben, vas-y, vu que t'es parti sur les drifts, vas-y, mon coco, enchaîne.
Ah bah, c'est super simple d'enchaîner, puisque pour ceux qui n'auraient pas vu Fast and Furious Tokyo Drift, vous pouvez avoir un remake pendant la All-Star Race, puisqu'on va avoir des magnifiques néons luminescents en dessous des voitures. Je précise que le magnifique est totalement ironique, et que même... Mike Joy de la Fox Henry. Donc je pense que ça va être à peu près tout dire quand le diffuseur officiel de cette course se moque de cette comment dire, je pourrais pas dire invention, ce serait gentil, mais de cette idée. Voilà, restons vagues.
Hop, ils ont fait autre chose la Fox ce week-end, tu nous as donné l'info. Le petit montage qu'ils ont fait avec Fast and Furious 1.
Ah oui, en plus sur les réseaux sociaux, ils promeuvent cette course en faisant un montage sur la course de drag race dans le 7 épisode de Fast and Furious, donc Tokyo Drift. Moi, je dis, mais en fait, même si la Fox a compris que c'était un remake du film, c'est mauvais signe. J'ai peur J'ai peur pour mes yeux cette nuit.
Mais non, Jeff Gordon a dit que c'était bien. Donc,
Oui, mais fallait
ça, bien c'est, ça, c'est politiquement correct.
C'est vrai, fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui dise que ça allait, quoi.
Mais j'ai peur entre ça et les numéros qui sont rapetissés et décalés vers l'arrière, ce qui est également moche, à mon sens, d'un point de vue purement esthétique. Je parle juste d'un point de vue.
Ça ne me choque pas à voir sur les voitures en vrai, mais sur les montages 3D, ça paraît. Enfin,
non,
ça
c'est pas forcément moche enfin, pour faire contrepoids à ce que dit Aloïs. Hein. Mais après, c'est ce que disait, je sais plus. Peut-être bien Dale Earnhardt Jr., c'est que aujourd'hui, t'es dans un monde en NASCAR où, hormis Ada Hendrick sur la voiture de Johnson et la Gibbs avec la voiture d'Hamlin, pour faire 38 courses dans la saison, il te faut 6, 7, 8, 9, 10, 15, 36, 38 sponsors. Et quel est le seul élément reconnaissable d'une voiture, quel est le seul élément auquel on s'identifie à une voiture si c'est plus le sponsor comme dans les années 70 où t'avais qu'un sponsor pour toute la saison, c'est le numéro. Et du coup, rendre ce numéro plus petit, c'est peut-être embêtant de ce point de vue-là.
Après, en étant dans les tribunes, est-ce que c'est pas plutôt le numéro sur le toit qu'on voit le mieux?
Bah
même
oui,
si il est à l'envers.
Sachant qu'il n'est pas mis dans le sens des tribunes, bon, c'est... Je ne sais pas.
Mais au final, l'élément de sponsor qu'on voit le plus, c'est celui qui est sur le capot. Et les couleurs. Si
oui.
On se base d'un point de vue téléspectateur ou d'un point de vue spectateur.
Oui.
Je ne pense pas que c'est le sponsor qui est sur le côté qu'on verra le mieux.
Non.
Surtout qu'il est limité, du coup, avec la portière en hauteur. Donc, tu seras toujours embêté.
Oui, 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 tu seras toujours... Enfin, de toute façon, après, tu pourras toujours trouver des argumentaires pour et contre sur les deux versions.
Après, c'est un test, hein, c'est tout, hein.
Oui, ben on sait très bien ce que c'est qu'un test à la All-Star.
Le test, là, c'est pour dire, bon, on a prévu de le mettre en service dans les prochaines années, on voit le feedback qu'on a sur cette course.
Oui, je veux dire, la All-Star, c'est là que sont nés les segments, c'est là aussi qu'est né les restarts en double fil. Et puis là, on nous remet aussi gentiment, vu que tu parles des restarts, Aloïs, une règle que j'attends beaucoup, notamment à Bristol, ça peut être très très drôle, la fameuse règle du choix de la ligne, la fameuse cone rule, où lors des restarts, et donc pas au départ de la course, les pilotes auront le choix, tous auront le choix de relancer à l'intérieur ou à l'extérieur.
Donc du coup, tu pourras te retrouver avec beaucoup plus de pilotes à l'intérieur qu'à l'extérieur, ou inversement selon la piste.
À Bristol, quelque chose me dit qu'ils vont tous aller à l'extérieur. Et que des mecs qui seront peut-être 16 ou 17, tu vois, se diront « Bon, bah là, à l'intérieur, ça fera toujours 4-5 passes de gagner, quoi. »
Ça, c'est à double tranchant, cette règle.
Oui.
Parce que ça peut vraiment accoucher d'un flop monumental si, au final, les mecs ont peur et décident tous de faire un petit restart en single file.
Ouais, mais je t'avouerai que pour la All-Star, que des restarts en single file, ça va être très très moche.
Du single file à la Talladega, ça va être bon.
Donc, on verra bien. Rendez-vous cette nuit pour poursuivre la All-Star, messieurs. Je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose sur cette All-Star. Je pense qu'on a parlé de tout, des néons, des... Si, le tenant du titre de cette épreuve qui n'est pas là.
Larson.
C'est ce qui est assez rare. Kyle Larson qui a été un petit peu évincé avec pertes et fracas. Et donc, pas de Kyle Larson, donc pas de tenant du titre qualifié pour cette course. Aloïs, je sais que ça t'en fait bouger une sans toucher l'autre.
Maintenant, on a l'habitude de plus voir Kyle Larson sur les week-ends.
Oui, c'est ça, il nous manque pas, et il s'éclate sur les courses sur Dirt Track. Hein.
Malheureusement, ouais, il s'est vite fait oublier. Hein.
Mais en même temps, je pense que... L'effet médiatique joue un petit peu, puisque la Fox n'a pas forcément envie d'en parler, pour éviter d'être associé de près ou de loin à ce qui s'est passé, ou de remuer le couteau dans la plaie, à minima. Donc, pour l'instant, c'est désert médiatique, mais quand on voit les suiveurs, et je suis à peu près certain que les pilotes en lice, en cup, continue d'échanger avec lui, ça je me fais pas d'inquiétude. Et justement, les suiveurs gardent quand même un œil sur les résultats de Larson et font un petit update toutes les semaines pour, en général, raconter là où les victoires de Larson.
Effectivement, c'est une possibilité. Messieurs, on va s'arrêter là-dessus, parce qu'on a encore débordé. Mais bon, c'est pas grave.
Un tout petit peu.
Un tout petit peu, comme d'hab. On se donne rendez-vous en fin de semaine. Je sais pas quel jour. Est-ce que ce sera jeudi, est-ce que ce sera vendredi? Ce sera une surprise. Samedi, peut-être aussi. On verra. Pour débriefer la All-Star et parler rapidement du Texas. Donc, PJ One d'un côté, PJ One de l'autre. Ça devrait aller très vite.
On va plaire à Loïs, tout ça.
Oui, mais yes, bon, sur la All-Star, on pourra un petit peu plus débriefer et dire enfin ce qu'on a pensé des néons qui sont merdiques, du restart en double file où les pilotes ont été peureux et, et des décos sponsors qui servent à rien. Voilà. Je crois que j'ai bien teasé la prochaine émission. Vous avez tous envie de suivre la prochaine émission. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous très très vite. Bonne All-Star cette nuit. Et à bientôt, bye bye.
À dans quelques jours.
Bonne semaine et bon film devant Tokyo Drift.